telescope of pressing you on a point you seem reticent to discuss, may I ask you a straightforward question?
Well, certainly.
Quite frankly, we have had some very reliable intelligence reports that quite a serious epidemic has broken out at Clearance. Something apparently of an unknown origin.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce troisième numéro de Force et Houblon, chronique d'un enfermement. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un concept qui est l'individu roi. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est quand même un poncif un petit peu usé. Malgré tout, j'ai quelques réflexions. Je pense ne pas être allé jusqu'au bout de cette réflexion, je pense que... et c'est loin d'être fini. Mais voilà, je pense que je vais vous exposer quelques-unes de mes réflexions par rapport à ce sujet. Ce sujet m'est revenu à l'esprit pour la simple et bonne raison que depuis le début de ce confinement, on va dire une semaine après, nous avons malgré nous, subi un certain déferlement d'informations par rapport au professeur Raoult qui préconise l'utilisation de la chloroquine. Ici, je ne suis pas là pour parler de ce traitement et de ce professeur de façon nominative, je suis là plutôt pour ramener la réflexion un petit peu plus à la hauteur. Encore une fois, on pourra juger par rapport aux résultats, mais cela n'est ici pas le but de ce podcast. Ce que je veux juger ici, par contre, ce n'est pas donc le professeur en tant que tel, c'est plutôt tout cet emballement que nous avons par rapport à cette solution qui est proposée. À chaque fois, le professeur, je pense, n'est pas seul, il a une équipe à Marseille et dans son IHU, si ma mémoire est bonne, et c'est eux et lui qui font toute une batterie de tests plus ou moins ou d'études que certains ou d'autres pourront contester. En tout cas, je ne suis pas virologue et immunologiste, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais cette équipe est cachée derrière la présence du docteur Didier Raoult. Et c'est cela aussi que je veux mettre comme point en avant. C'est le fait que pour un certain nombre de causes, et je pense aussi pour un certain nombre d'entreprises, il est commun, et je pense que c'est un biais de l'esprit humain qui, devant l'immensité de quelque chose, souhaite toujours un petit peu individualiser son ressenti pour qu'une solution, un petit peu, ou une entreprise, s'incarne par le biais d'une seule et unique personne. Donc ici, ce traitement qui a été décidé, je pense, peut-être de façon un peu plus collégiale, du moins, les solutions qui en découlent, ici, elles ne sont que représentées par le docteur Didier Raoult. Comme un peu, et même si ça, pour cette crise, ça a un petit peu tendance à s'effacer, quand on parle de gouvernement, on parle souvent du chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. Donc l'institution, elle aussi, est un petit peu mise en exergue par le biais d'un seul et unique individu. C'est beaucoup plus simple en France, où le président de la République a des pouvoirs puissants, s'il y a une majorité au Parlement, et aussi au Sénat, mais bon, ça reste un peu plus à discuter pour le Sénat. Malgré tout, on a toujours ce biais de vouloir synthétiser une sorte d'aventure humaine, une sorte de fille de société, une institution, par le biais d'un seul et unique individu. Nous avons aussi exactement le même exemple avec Greta Thunberg, qui elle aussi, en incarnant l'idéologie de l'écologie, la croissance verte, grosso modo, je sais que c'est pas bien de dire ça comme ça, mais pour moi c'est un peu l'idée qu'il y a derrière, et de ce mouvement plutôt de l'écologie au sein de la jeunesse et au sein d'une part de la population de plus en plus grandissante, elle en devient aussi l'avatar. Donc c'est un peu ça, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle représente l'avatar de cette écologie. Donc c'est un peu ce que j'appelle, moi, la totémisation, c'est-à-dire qu'on a un seul individu qui est là et qui représente quelque chose. Et quand je parle d'entreprise, vous l'avez compris, je veux aussi parler par exemple d'Amazon avec Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg avec Facebook, ou d'autres entreprises comme Xavier Niel avec Free, qui sont la représentation de leur entreprise. On pourrait aussi en faire... Moi qui suis fan de jeux vidéo, je pourrais aller même beaucoup plus loin dans cette analyse. En effet, nous avons eu, il y a déjà quelques années, le président de Nintendo, Iwata Satoru, qui lui était vraiment la représentation physique de cette entreprise. En effet, il faisait partie intégrante de la communication de l'entreprise Nintendo par rapport, j'ai presque envie de dire, au grand public ou au tout venant, même si, c'est dit comme ça, ça fait un peu dégueulasse, mais c'est grosso modo, c'est l'idée. Et nous avons aussi la même idée avec Afflelou, par exemple, pour trouver quelque chose d'assez proche. Or, je trouve que cette approche a tendance à un petit peu départir les responsabilités de tout un chacun par rapport à ce que pourrait faire une société ou un président directeur. Alors certes, il est censé tout diriger, si c'est un président ou une présidente, et d'ailleurs, ne soyons pas sectaires, mais c'est vrai qu'il est quand même compliqué de séparer l'un de l'autre, et de savoir qui a fait quoi et qui a voulu faire quoi. Nous avons par conséquent une essentialisation de l'entreprise par rapport à la figure de l'individu. Or, cette glorification de l'individu, nous la voyons partout. Hein. C'est aussi pour cela que nous avons des fois de longs témoignages fleuves par rapport à un artiste, un dirigeant d'entreprise ou que sais-je, dans les médias divers et variés. Nous sommes toujours dans cette glorification de l'individu. Pour moi, cet individu, c'est toujours l'individu roi. Pourquoi? Car l'individu roi est au cœur de ce qu'on pourrait appeler la liberté négative. Il en est même l'ADN. La liberté négative, il ne faut pas voir quelque chose dans la liberté négative, c'est vraiment comme un chiffre négatif ou positif. Il faut pas schématiser plus que ça. La liberté négative, c'est le fait de jouir de sa liberté sans aucune entrave. Alors que la liberté positive, elle a quelque chose d'un peu plus sociétal. C'est toujours bien évidemment de jouir d'une certaine forme de liberté, faut pas se mentir. Mais cette fois-ci, c'est vraiment plus quelque chose d'interne. Alors je vais vous faire un petit schéma, ça sera plus simple. Par exemple, si j'ai envie d'aller, or c'est un exemple que j'ai vu qui peut être très simple, si j'ai envie d'aller à Albi, hein, je suis d'Albi, j'ai envie d'aller à la buvette. Je peux y aller, mais si on me vole ma voiture ou qu'on me séquestre, je ne peux pas y aller. Ou qu'on m'en empêche parce que je suis confiné. Tout ceci, c'est de la liberté négative. En effet, j'ai des entraves qui m'empêchent d'aller quelque part. Maintenant, prenons le cas de figure de la liberté positive. Je souhaite aller à la buvette. Le confinement est fini, tout est terminé. Malheureusement, j'ai par exemple perdu mon emploi ou quelque chose d'autre, où je dois avoir des dépenses autres, où je dois m'occuper de quelqu'un proche qui est toujours malade, même fin de confinement oblige, et je ne peux pas aller à cette buvette. Alors là, c'est vrai que de s'occuper de quelqu'un, peut-être ça fait partie de la liberté négative. Mais bon, voilà, vous avez à peu près compris l'idée. Je ne peux pas y aller parce que justement, je n'ai pas d'argent pour y aller. Je peux y aller si je le souhaite, malgré tout, je ne pourrai pas jouir pleinement de ma liberté. Et aujourd'hui, malheureusement, je trouve que nous jouissons trop de liberté négative. En effet, elle est le parangon fort du néolibéralisme qui est là justement pour nous faire consommer sans aucune entrave. Donc les deux sont parfaitement rejoués là-dessus. Et donc le but étant de consommer, parce qu'il n'y a que ça de vrai malheureusement, le néolibéralisme est là pour faire sauter toutes les entraves possibles et inimaginables, justement pour nous faire consommer. Bonjour les Uber, bonjour je viens te livrer en vélo. Même si des gens en subissent le prix, ce n'est pas bien grave. En tout cas, j'aurai ma bonne petite salade à l'arrivée. Nous en sommes donc arrivés à un individu roi qui doit jouir sans entrave. Alors je pense que les choses peuvent être remises aussi sur d'autres perspectives. Le but n'est pas non plus d'aller très en profondeur. J'espère que, d'ailleurs, si vous avez des critiques à m'adresser ou si vous avez des compléments ou autres, vous pouvez aussi me contacter directement et je ferai passer votre petit billet dans ce podcast. N'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Or, en allant de plus en plus loin, cette doctrine de l'individu roi, nous n'en venons qu'à souhaiter finalement à faire sauter tous les cadres de société. Nous en sommes réduits presque à ne célébrer que tous les particularismes et d'ailleurs à les chérir pour certains, car nous faisons sauter toutes les barrières de ce qu'on pourrait appeler la société qui devient, comme dirait Margaret Thatcher, qu'un regroupement d'individus. Or, en célébrant cet individualisme forcené, hein, qui est vraiment essentialiste de nos existences maintenant, parce que ça fait déjà de nombreuses années que ça dure, depuis la fin des années 70, grosso modo, pourrait-on dire. Malgré tout, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une faille, un trou dans la raquette par rapport à cette idéologie. En effet, nous continuons tout de même à vivre en société, et l'être humain, par nature, ne peut être totalement parfait. Nous avons donc, comme il faut quand même enlever certaines formes d'entraves, nous avons décidé de libérer les esprits en supprimant ce qu'on pourrait grosso modo appeler la morale, pour le remplacer uniquement par le droit et la loi. Alors maintenant je vais vous donner un avis plus ressenti. En effet, depuis quelques mois ou années, j'ai l'impression que alors c'est une vague de fond, c'est peut-être moi qui m'en rends plus compte qu'autre chose, hein. C'est pas, faut pas conceptualiser, se dire mon dieu ça y est ça a déferlé, on va tous mourir. Non, c'est plus différent que ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que le rapport aux autres, à autrui, est de plus en plus construit par rapport à un contrat, pas social, mais du coup vraiment un contrat, presque un contrat de travail, quoi. C'est vraiment, on est là un petit peu pour, on est prestataire de ce qu'on donne ou de ce qu'on reçoit d'autrui. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment délétère, voilà, parce qu'on en est vraiment arrivé à une société où tout doit être un petit peu normé, tout doit être un petit peu régi sur certaines égides, malgré tout, il faut tout de même faire sauter certaines entraves. Mais il faut quand même laisser certaines entraves, parce que sinon la société part en cacahuète, hein, tout simplement. Et ça devient tout et n'importe quoi. Et finalement, ce télescopage entre la morale et la loi, le droit, nous l'avons eu en début ou encore pendant ce confinement. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Écoutez, je ne veux pas être confiné, je préfère sortir. Je suis dans mon rôle d'individu roi, personne ne doit m'entraver, je dois faire ce que je veux. » Et à côté de cela, nous voyons les images. Ou 20h, ou même les rapports que nous pouvons avoir aux autres qui ramènent à nos oreilles que dans les hôpitaux ça se passe très très mal parce que les gens, évidemment, ils sont un petit peu infectés, ils sont un petit peu malades, hein, pour faire un petit peu de l'euphémisme. Donc nous savons les autres malades et nous pouvons nous-mêmes être infectés et rendre les autres malades. Donc le confinement est quand même une preuve de bon sens, mais le confinement, il est à la fois une certaine forme de loi parce que nous sommes un petit peu contraints de rester à la maison, mais il est surtout, et c'est là quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir, c'est vraiment quelque chose qui a un ordre moral. En effet, si nous sortons, nous pouvons être infectés nous-mêmes, c'est-à-dire subir les dommages de ce Covid-19, mais nous pouvons aussi continuer à répandre ce virus au sein de quelque chose qui nous est proche, donc à savoir les cellules familiales ou peut-être même nos amis. Ça dépend comment vous êtes confiné, ça dépend ce que vous faites. Et ce télescopage malheureux devrait nous porter à plus de réflexion. Selon moi, quand on se plaint des gens qui vont piquer tout le papier cul ou toutes les pattes, il faut aussi savoir que nous avons été, pendant de nombreuses années, je l'ai dit plus tôt, acclimatés à cette idéologie. Ça n'est même devenu presque un ADN de l'idéologie de l'individu roi. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la liberté négative. Donc si l'individu veut aller acheter des pâtes, il doit. Il a le but, il a le... Comment ça s'appelle ? C'est vraiment un instinct primaire d'aller acheter ses putains de pâtes et son putain de PQ. Et on ne peut pas l'entraver. C'est pour ça que les individus doivent tout prendre et ne rien laisser aux autres parce que s'ils ont envie, eh ben c'est leur but. Alors maintenant, je vous donne mon ressenti sans aucun ordre moral, bien évidemment. Selon moi, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Mais cette situation, elle a été amenée, elle a été voulue, elle a été choisie. Alors peut-être que nous sommes que des pions, et certainement que nous ne sommes pas aussi que des pions, nous avons aussi une forte inclinaison à aller dans ce sens-là, et c'est pour moi aussi l'importance de remettre la morale, même si ce mot il fait dégueulasse, ça fait un peu vieux cutéreux ou vieux cubéni, mais selon moi la morale a une forme d'importance, ce que d'ailleurs Orwell quelque part nommait la décence commune, à savoir le fait d'avoir une forme de décence qui nous empêcherait de faire certaines choses qui pourraient être nocive aux autres. Mais cette individualisation de la société va beaucoup plus loin que cette histoire de PQ et de j'ai envie de sortir, vous ne pouvez pas m'entraver. Dans énormément de mouvements de gauche, je ne les citerai pas, mais je les regarde du coin de l'œil, nous avons une essentialisation de cet individualisme, qui disent finalement, grosso modo, la liberté c'est méga cool, ne venez pas l'entraver, tout simplement, et qui propose un idéal social qui est réduit à portion congrue, quoi. C'est rien, quoi. Et il est là le moment où je vais enfin passer pour l'ultime facho. Bien évidemment, vous le savez, je suis un grand réactionnaire, et là, ça y est, ça débarque. Nous avons aussi, par rapport à cette liberté négative, plein d'exemples qui peuvent être plus parlants, probablement pour la plupart d'entre vous. La liberté négative, je le rappelle, c'est donc le fait de jouir sans entrave, donc de ne pas être entravé, donc de ne pas être empêché par quelque chose. Quand je parle d'être empêché par quelque chose, c'est donc une liberté qu'on pourrait dire qu'il se façonne contre plutôt qu'avec pour. Et on se retrouve, par conséquent, à construire des idéaux, dirons-nous, pas dans le biais de réunir pour quelque chose, mais plutôt contre quelque chose. Et cette lutte du contre, elle peut être parfaitement résumée par le mouvement écologiste. En effet, dans certaines branches, c'est surtout contre le capitalisme, contre les pollueurs, contre... toutes choses, je vais pas les énumérer, je pense que c'est pas le but de cette émission. Malgré tout, on continue à chérir cet individualisme qui, justement, produit ces formes de causes-là. Hein. Si les gens y polluent, je pense pas que ce soit par plaisir, c'est aussi par profit. Donc si on les laisse pouvoir jouir de leur profit, le problème ne s'arrête véritablement jamais. Sauf que en même temps, on dit on est contre ceci, contre cela, mais en même temps, par exemple, on pourrait chérir la liberté individuelle, c'est-à-dire d'être propriétaire, par exemple, et de dire nous ne sommes pour que les gens fassent des micro-jardins au fond de leur résidence, ou je sais pas quoi, bon, enfin bref, quelque chose du genre. Et on essaie, en fait, de combattre un individualisme par un autre, tout simplement, parce que, et selon moi, c'est vraiment la pire des choses à faire. Alors je sais que il est toujours facile de dire, toi qui écouteras cette émission et qui m'écoute dire toutes mes conneries, de se dire... Oui, alors, mais G81, finalement, il est contre l'écologie, il ne propose rien. Justement, alors déjà, je ne pense pas que je sois le plus à même à emporter des propositions, mais selon moi, le but essentiel de tout cela, et de tout ce que je vous explique, c'est vraiment qu'il faudrait changer d'imaginaire. Et quand je parle de changer d'imaginaire, c'est de réfléchir à de nouveaux vécus ensemble, et d'aller beaucoup plus loin que de faire un petit peu... je pique les affaires de Pierre et je les mets à Paul, et l'histoire, elle est réglée. Non. C'est vraiment de proposer un avenir en commun bien plus intéressant. Et surtout, plus porteur de sens et d'égalité par rapport à tous, et d'équité aussi. Et je ne vais pas vous sortir les poncifs, vous allez voir, c'est facile, vous allez voir, c'est aisé, Non, selon moi, il y aura énormément de boulot à faire. Ça fait des années, ça fait plusieurs générations que nous sommes baignés dans cet ADN de l'individualisme et d'autres effets délétères. On ne va pas s'en sortir par un coup de baguette magique, ce serait si simple. D'ailleurs aussi, la plupart des... Quand je parle aussi du mouvement écologiste, je pourrais parler d'autres mouvements. C'est vrai que je suis un peu comme George Orwell, je suis plus féroce avec les gens qui sont de mon côté que contre les gens qui sont d'autres bords politiques. Eh bien, en fait, on continue à célébrer toujours cette espèce de pensée néolibérale, mais plutôt cette fois-ci capitaliste, et qui est à savoir que on doit avoir tout de suite maintenant, c'est même plutôt la pensée consumériste, et qu'il faudrait, si je critique quelque chose, il faut que je t'amène de suite une solution, parce que tu comprends bien les solutions, et c'est l'inverse de la pensée complexe, c'est ramener des solutions simplistes aux problèmes complexes. Non, il faut réfléchir à d'autres choses, alors peut-être que ça prendra du temps, peut-être même que ce sera trop fatal de réfléchir. Va savoir, je ne suis pas la planète, donc je ne pourrais pas nous dire quand, à partir du moment où on cassera la branche. Mais il faut sortir des oripeaux de cette espèce de volonté d'agir rapidement, de trouver des solutions, bordel de merde, parce que putain ça presse, faut faire vite, au rythme de faire ben, n'importe quoi, parce qu'on ne se pose strictement aucune question. On valorise plus, ça c'est pareil, c'est la pensée capitaliste, c'est le côté entrepreneur. On ne favorise plus, plutôt la capacité d'agir qu'à réfléchir. Alors Coluche disait, un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel qui réfléchit, qui reste assis et qui réfléchit. Mais je trouve ça quand même un peu limite, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, l'être humain a certes des bras, des jambes, mais il a aussi un cerveau, il pourrait peut-être aussi l'utiliser, sauf que je pense pas trop de mal. Mais voilà, on préfère valoriser toujours cette capacité à agir. Et c'est ça aussi dans les mouvements écologistes qui me fait marrer. Alors il y a d'autres mouvements, j'ai pris ça parce que les mouvements d'extrême droite, c'est pareil, c'est des mouvements contre, mais ils essaient de faire une espèce de forme de société aussi, qui est finalement plus dans le contre que dans le pour. Parce qu'on est contre les étrangers, contre... En fait, on se forme... En fait, on fait une espèce d'île, en fait. C'est ça aussi qui est extrêmement gênant avec les mouvements de droite et encore plus d'extrême droite. Bon, ici, c'est pas trop le propos. Et on se retrouve donc encore et toujours à célébrer l'action individuelle par rapport à l'action collective, qui peut pas forcément mieux. Hein. Je ne fais pas de traitement de jugement ici. Mais c'est vrai qu'on essaye de sortir d'un paradigme tout en y restant. Alors, c'est vrai que des fois, il y en a certains qui pensent que on peut agir sur le système de l'intérieur. C'est peut-être une voie à laquelle je n'ai toujours pas bien réfléchi. C'est peut-être aussi ça mon biais idéologique. Mais pour moi, ça me paraît un peu vain de vouloir changer les choses de l'intérieur tout en continuant à célébrer exactement les mêmes mécaniques, tout simplement. Qui dit que pendant l'effondrement, si cet effondrement arrive, les gens qui auront leur micro-jardin, ils feront pas chier aux gens qui n'ont pas de micro-jardin parce que justement ils n'ont pas pris l'initiative individuelle d'en faire un et qu'on voudra pas les accueillir du coup parce que ce sera de fief capitaliste. Bah pourquoi pas ? Je dis ça comme ça, mais ça peut être une option tout à fait possible. Et donc cet individualisme, en fait, il est tellement partout que finalement peut-être il est nulle part, peut-être est-il aussi la conséquence de quelque chose de très humain. Malgré tout, je veux pas tomber dans le poncif qui serait un petit peu défaitiste de dire « Oui, l'homme étant l'homme, il ne peut être changé, donc on ne peut rien changer, donc continuons exactement sur la même voie, et puis on verra bien. » Non, je pense qu'il serait peut-être plus urgent de réfléchir à d'autres... de changer les imaginaires, j'aime bien cette tournure de phrase. Je trouve qu'elle est vraiment porteuse de sens. Et je pense que c'est cela que j'essaie un petit peu de vous instiguer tous les jours. Alors j'espère que vous ne serez pas non plus totalement 100% d'accord avec moi, c'est pas le but. Mais voilà, j'espère que ça vous ouvrira à de nouveaux horizons et que devant certaines situations, vous vous poserez peut-être un peu plus de questions. Alors écoutez, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans Force et Houblon, chronique d'un enfermement.